Bonjour David.
Bonjour Jean-Luc Deschênes, comment vas-tu?
J'écoute bien, bien, bien. J'entame mon 28 ou 21e jour de confinement, comme à peu près tout le monde. Je fais avec. Aujourd'hui, il y a du soleil, donc c'est bien.
Bon. Alors, nous sommes donc le 13 avril 2020, c'est l'après-midi. Je suis David Melmans, l'éditeur des éditions Forges de Vulcain, et à la faveur du confinement, j'appelle les auteurs et autrices des Forges de Vulcain qui nous parlent de leur lecture. Et c'est moi qui lance les questions. Les questions ne sont pas préparées, donc elles peuvent être déstabilisantes. Mais je me suis rendu compte que les auteurs et autrices, enfin les bons auteurs et les bons autrices sont souvent des gens qui ont beaucoup lu, qui lisent souvent avec un œil assez précis et qui donnent envie de lire. Donc le but de ces enregistrements, c'est de donner envie de lire aux gens. Et est-ce que tu es partant pour cette aventure?
Bah oui, tout à fait. Allons-y.
Et alors, la question que je te posais, et je me rends compte que je ne l'ai jamais abordée avec toi parce que c'est un auteur dont je n'ai lu qu'un roman, mais qui est un auteur qui est sans doute très important pour toi, c'est James Ellroy. Donc, est-ce que tu peux nous parler de James Ellroy? Alors, je vais dire quand même pourquoi je pose cette question. C'est que la première chose que j'ai lue de toi, c'est que tu avais dirigé un livre collectif sur James Ellroy que j'ai, mais que je n'ai toujours pas lu parce que je n'ai lu qu'un roman de James Ellroy qui est le Dahlia Noir. Et donc j'attends d'en avoir lu d'autres pour me jeter sur ce recueil.
Alors, Ellroy, c'est un auteur qui compte énormément pour moi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en effet, quand j'ai créé la maison d'édition L'Œil d'Or, le premier titre que j'ai publié est cet essai collectif autour de James Ellroy. Ensuite, c'est qu'en préparant cet essai, j'étais allé voir François Guérive plusieurs fois. François Guérive, qui était alors à l'époque le directeur de Rivage Noir aux éditions Rivage, pas du Rivage. Et qui était là avec Patrice Reina, l'une des deux grandes figures de l'édition de Polar et de Roman Noir en France. Et de fil en aiguille, François Guérif m'avait donné en quelques heures tous les conseils qui m'ont permis de monter une maison d'édition qui, 20 ans plus tard, fonctionne encore. Donc, déjà en termes de périphérie, ce travail autour d'Ellroy a été extrêmement important pour moi, puisque sans ça, je n'aurais jamais créé les éditions L'Œil d'Or, ni bénéficié de conseils pratiques extrêmement concrets qui m'ont permis de la faire fonctionner. Après, Ellroy, c'est un auteur que j'ai découvert pendant mes études. Je lisais une des thèses autour de Jean Genet, donc auteur assez complexe, avec une part de son œuvre qui tourne autour de la prison. Je n'étais pas particulièrement un lecteur de polar parce que je trouvais que beaucoup de polars étaient préconçus, ennuyeux, voire pas tout à fait réalistes, sachant que mon père était divisionnaire de police et que donc j'avais un accès à la police française assez radical et assez direct. J'ai un peu grandi dans des commissariats en fait. Mais un jour, je suis tombé sur. Alors, je fais une parenthèse. Les seuls auteurs de polar que j'avais bien étaient ceux qui étaient plus dans la collection Sombre Crapule, Richard Lortz, Mark Bem, Russell Greenan, qui font pas vraiment du polar, mais qui utilisent le roman noir pour faire des textes burlesques à la lisière du fantastique.
D'accord.
Et donc, j'ai
Alors, Sombre
découvert James
Crapule,
Ellroy.
c'était chez qui, attends?
Sombre Crapule, c'était une maison d'édition indépendante hein, qui a
D'accord.
publié une trentaine de titres avant de faire faillite. Et ces 30 titres ont été entièrement rachetés par Rivage et sont tous dans les 100 premiers romans de Rivage Noir.
D'accord.
Et donc j'ai lu James Ellroy quand j'étais étudiant et j'ai été stupéfait par le quatuor de Los Angeles, donc le Dahlia Noir, le Grand Nil par White Jazz et L.O. Confidential, L.O. Confidential étant le deuxième en fait. C'est un quatuor où les personnages se croisent, mais les histoires ne sont pas les mêmes, donc chaque texte est indépendant. Il y a une figure récurrente qui est Dudley Smith, qui est une espèce de Charles Pasqua américain, c'est-à-dire un policier véreux, trafiquant de drogue, extrêmement dangereux, sous des dehors patelins et sympathiques. Et j'ai été stupéfait par le réalisme de ces textes, par la puissance psychologique des personnages, par la complexité des intrigues, et malgré tout par la lisibilité au moins des trois premiers. J'ai trouvé ça absolument incroyable. L'un des textes démarre par exemple sur un jour de l'an dans un commissariat où des policiers complètement sous vont s'amuser à tabasser des prisonniers, des gens en garde vue, et évidemment ça va très mal se finir. Pour la petite anecdote, j'avais fait lire ça à mon père qui m'avait dit que c'était la première fois qu'il lisait des romans policiers qui rendaient compte de l'ambiance violente, raciste et complexe des commissariats de police. Donc, voilà, même si c'était américain, c'était très
Même si
fort.
c'était dans les années 40, en fait.
Oui, et puis il y avait donc une plume incroyable, une qualité d'écriture incroyable, des personnages principaux et secondaires qui se tenaient. Et puis après, il y a le choc de Voyagers, qui est le dernier de la quadrilogie, qui est un roman écrit entièrement. C'est l'espèce de la voix intérieure d'un policier borderline, quasiment psychotique, et qui est aussi pur pour la mafia la nuit. Ce personnage est le plus sympathique et le plus honnête de ce roman. Donc un policier véreux tueur, qui est le plus sympathique d'un roman, c'est assez étonnant. Et c'est une espèce de voix off délirante sur plusieurs journées, non-stop, ça ne s'arrête pas. Et c'est une version noire, dantesque, éminemment violent de ce que pourrait être le James Joyce d'Ulysse, une espèce de délire narratif intérieur incroyable. Donc Elroy, ça a à la fois été pour moi un choc littéraire, et une leçon sur ce qu'on pouvait faire à l'aide du genre. C'est-à-dire, on part du polar et on expose tous les codes. Roman gigantesque, format boursouflé, personnage hors du commun, respect de tous les codes et en même temps explosion de ceci.
Mais
Et évidemment,
attends,
c'est
alors,
incroyable.
petit point de détail qui me vient en t'écoutant, c'est que je me suis souvenu que quand je lisais le Dahlia Noir dans les années 90, j'étais aussi très très fan d'un auteur de BD américain qui est un des grands grands dessinateurs de la BD américaine, qui est Frank Miller. Et Frank Miller a toute une série de BD polar autour d'un univers qu'il appelle Sin City. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte, parce que ça me frappait pas à l'époque, en fait, Sin City, je me demande, c'est pas très inspiré quand même de Elroy. Quel est le rapport entre Elroy et Frank Miller? Tu connais un peu Frank Miller ou non?
Alors, je connais bien Frank Miller, j'ai beaucoup lu Frank Miller en ayant longtemps trouvé intéressant son non-ambiguïté politique, puisque ses personnages de justiciers solitaires sont entre l'anarchiste de droite et le pur fasciste. Et je l'ai malheureusement vu sombrer avec la série 300, de plus en plus dans un discours fascisant qui à la fin était inacceptable. Mais c'est vrai que ces deux Batman et les deux premiers tomes de Sin City sont, à la fois d'un point de vue graphique et narratif, absolument extraordinaires. Et c'est vrai que le premier Sin City, les personnages, ces personnages de brutes, un peu limites, mais qui vont au bout de leurs enquêtes, sont très proches de certains personnages de James Ellroy. En Quatuor de Los Angeles, par exemple, alors je ne sais plus si c'est dans Le Grand Nulle Part ou dans Hello Confidential, il y a quatre flics enquêteurs. L'un qui est véreux, ouais, c'est la confidentielle, un qui est véreux et intelligent et mondain et qui va se faire tuer. Il cherche vraiment à résoudre des enquêtes. Un qui est un personnage brillant, intelligent, etc. Et l'un des quatre, c'est un flic intellectuellement limite, dont la mère s'est fait tabasser par son père et qui, du coup, est un tabasseur de femmes. Et tout le long du roman, on voit comment il est intellectuellement limité pour comprendre la complexité de l'intrigue, mais il n'a jamais l'affaire et il arrive au bout du truc. Et c'est le seul à arriver jusqu'au bout du truc, quasiment. Et il y a des proximités dans les univers, il y a des proximités dans la violence, dans la manière de bousculer les codes narratifs de la BD et du roman noir. Et il y a aussi une proximité dans la fascination du héros borderline à deux doigts du fascisme. À part que pour avoir discuté avec James Ellroy, je sais que sa posture de républicain pro peine de mort est une posture médiatique et que intellectuellement il est en réalité assez loin de ça.
Mais d'ailleurs, alors, point de détail sur Frank Miller. Frank Miller, en fait, sur les dernières années, il a fait une sorte de comeback où je pense qu'il fait partie de tous ces Américains qui sont traumatisés par l'époque Trump. Et en fait, il considère la quinzaine d'années qui vient de passer comme une sorte de grande errance intellectuelle et existentielle pour lui. Donc c'est un auteur que j'ai envie de redécouvrir ces jours-ci parce que j'avais lu un entretien avec lui où il revenait sur ses idées sur ces 15 années dernières et il faisait une sorte de mea culpa assez touchant sur une sorte d'errance personnelle. Voilà. Bon, c'est pas
Ah,
le sujet
il a l'air
aujourd'hui,
de
mais
dire qu'il fait partie de ces Américains qui ont pété un câble après les Twin Towers et qui sont
c'est
entrés dans
ça.
une vision totalement binaire du monde et totalement cow-boy. Après, On va dire que la vie est longue et que les retournements sont possibles. Mais c'est vrai que moi, je trouvais qu'il était sur une lisière où il interrogeait le modèle du héros américain, du cow-boy, de manière intéressante. Et tout d'un coup, il a sombré dans quelque chose qui était extrêmement douteux, dans 300,
Oui,
le
quelque chose de
traître
en
est un
plus très
handicapé,
viriliste,
l'envahisseur est noir, enfin, c'était très, très tordu, en fait.
Mais alors, un autre auteur que tu as cité, que moi j'ai un tout petit peu lu, mais effectivement pour moi qui me semble loin de Elroy parce que j'ai jamais établi de lien entre eux, mais qui est un auteur important pour toi, c'est Genet. Et comment tu es arrivé à Genet? Et si tu devais recommander certains textes de Genet, quel texte te recommanderais-tu?
Alors, Genet reste, à mon sens, un des plus grands écrivains français, que ce soit pour ses romans, il y en a en fait très peu, pour ses récits, pour ses journaux politiques et pour son théâtre. Je suis arrivé à Genet un peu par un double mouvement un peu étrange. J'ai fait une maîtrise à Nantes, une étude comparative de Huysmans et Oscar Wilde. J'étais fasciné par la figure du dandysme et de la transgression au nom de l'esthétique. À Nantes, à l'époque, il n'y avait pas de troisième cycle. Donc il fallait que je change de ville pour faire un troisième cycle. Je suis monté à Paris. Et comme je suis absolument incapable de travailler en langue étrangère, il fallait donc que je travaille sur un auteur français. Il se trouve, à ma grande honte, que j'ai une espèce de préjugé ou de préconçu sur la littérature française que j'aime pas beaucoup, parce que j'ai jamais aimé l'autofiction et que c'était le moment où l'autofiction décollait. Et du coup, je cherchais un auteur dont j'aime l'écriture, dont j'aime les textes et que je pourrais relire plusieurs fois puisque j'allais faire une thèse dessus. Et un peu par hasard, je suis tombé sur Querelle de Brest, qui a inspiré toute l'esthétique à l'esthétique gay, à la, les noms m'échappent, mais à la Fassbinder ou à la. Cette figure de la mode française qui venait des marins partout.
Ah,
C'était vraiment
Gauthier.
une fille. Et voilà, qui a inspiré Gautier, qui a inspiré Fassbinder. Tout ça vient de Jean Genet. Le marin, la vierge, le marin, la vierge, la mer, donc tout ça mélangé dans une grande esthétique, ça vient de Jean Genet. Et quand j'ai lu Querelle de Brest, j'ai eu à la fois une fascination et un effroi. Il y a un malaise, c'est-à-dire que j'ai tombé dans une littérature qui était homosexuelle, parfois pornographique, en même temps extraordinairement bien écrite, qui était à la fois dans la transgression des codes traditionnels radicalement athées et anti-religieuses tout en reprenant le vocabulaire de la religion, et aussi violemment anti-policière. Je n'ai pas fait de la prison, alors pas tant que ça, mais il en a fait quand même. Et il a été prostitué, il a été travesti. Donc quelque chose aussi qui choquait mon univers personnel, deux filles de divisionnaires de police, hétérosexuelles, ayant grandi de manière très standardisée, on va dire. Donc j'étais à la fois dérangé, intéressé et totalement admiratif devant cette écriture. Et j'ai continué à lire les textes de Genet. J'ai découvert aussi les mouvements les plus durs de l'ultra-gauche. Je n'ai pas défendu la bande d'Abadère, je n'ai pas allé en Palestine, je n'ai pas allé passer donc 18 mois en Palestine, sur dans les camps, à passer un an et demi avec les Black Panthers, enfin, qui était aussi très à l'opposé de ma culture familiale, puisque mon père était un gaulliste pur et dur et que l'ultra-gauche ne faisait pas partie de ma culture. Donc tout ça m'a bougé, dérangé, gêné, appris des choses. Et malgré toutes ces dimensions politique, sociale, etc. Il y a quelque chose qui ne bougeait pas, qui restait absolument extraordinaire, c'est une écriture incroyable. C'est une manière de d'interroger la langue, d'interroger la narration, d'interroger le roman qui est extraordinaire. Et à l'intérieur de Jean Genet, Jean Genet est quelqu'un qui a lu le roman populaire, qui a lu toute la littérature de genre des années 10, 20, 30. Et ça, il s'en est inspiré, ça a été brassé, digéré, etc. Et il y avait une manière de, un peu comme ces peintres d'art moderne qui ont une extraordinaire maîtrise du style et de la technique et qui tendent vers l'abstraction tout en étant incroyablement maîtrisés. Et voilà, Genet donc pour moi une figure incontournable et assez extraordinaire.
Mais alors, en t'écoutant, c'est-à-dire Genet, c'est un auteur que je connais mal, malheureusement, mais ça me fait penser à un autre auteur qui, en plus, a un lien indirect avec la maison d'édition, mais c'est peut-être le côté théâtre dur, violent, c'est Coltès. Je me demandais si est-ce que tu étais lecteur de Coltès, à quel moment tu es devenu lecteur de Coltès, si tu es lecteur de Coltès, et puis éventuellement nous parler peut-être du travail du frère de Coltès que tu as édité.
Paradoxalement, même si le théâtre de Genève, je trouve assez incroyable, je lis assez peu de théâtre parce que je trouve que c'est difficile de lire du théâtre. Et surtout, je vais assez peu voir de théâtre parce que je suis rarement convaincu par le jeu d'acteur à la française. Je suis un grand amateur de, enfin, j'ai été un grand amateur de danse parce que justement, dans la danse, on est débarrassé de la narration et de la langue, paradoxalement. Mais le théâtre, j'ai toujours été un peu bloqué. Donc, j'avais en fait pas lu de texte de Bernard-Henri Coltès. Et j'ai découvert Bernard-Henri Coltès à l'occasion d'un texte autour d'un procès qui a opposé François Coltès à Muriel Mayette, qui dirigeait alors la Comédie-Française. Bernard-Henri Coltès, qui est un des. Alors, disciple, c'est pas le terme, mais qui est un héritier direct de Jean Genet, a écrit un théâtre politique où il parle des colonies françaises. Des rapports de force entre blancs et racisés, et essaie de bousculer énormément les codes bien-pensants du théâtre blanc occidental. Et quand Bernard-Henri Coltès est mort, il a posé un certain nombre d'éléments, et entre autres, il a écrit noir sur blanc que lorsque dans son théâtre, il avait écrit un rôle pour une femme, un noir ou un arabe, ce rôle devait être joué par un homme, enfin une femme, un noir ou un arabe, pour des raisons qui tenaient autant de l'esthétique que de la politique, car le théâtre français avait du mal à accepter l'altérité de ce corps autre sur sa scène. Donc c'est écrit noir sur blanc. Coltès n'avait jamais été joué à la Comédie française, et quand Muriel Mayette a décidé de jouer Retour au désert, qui est un texte qui se passe en France, dans une ville de province, et qui met en scène une famille de pieds-noirs revenus en France, qui ont amené avec eux un domestique harki, et qui vont, un peu par hasard, mourir dans un attentat d'un bar fréquenté par des pieds-noirs. Le texte commence par un monologue de leur domestique en arabe, et se termine par aussi un monologue du domestique en arabe. Muriel Mayette décide qu'il n'y a pas d'arabes qui sont capables de jouer à la comédie française, donc elle embauche un acteur français à qui elle demande de se friser les cheveux et de parler en arabe phonétique, puis d'imiter l'accent arabe pendant toute la représentation.
Ah, mais c'est un
Donc on est
blackface
vraiment
d'une
dans quelque
certaine
chose qui
façon.
s'appelle du blackface
Oui.
version maghreb.
Ouais.
François Coltès, le frère de Bernard-Henri Coltès, qui est l'ayant droit de tout cela, sachant que les droits, alors peu de gens savent, mais les droits de Bernard-Henri Coltès ne vont pas dans la poche de François Coltès, mais vont dans une association qui sert à créer des puits en Afrique et à financer des orphelinats en Afrique et du théâtre en Afrique. Donc François Coltès, voyant cela, dit à Muriel Mayette qu'elle aura le droit de faire ses 13 représentations puisque ça a été lancé, mais que par contre, une fois les 13 représentations terminées, elle ne pourra plus exploiter celle-ci telle qu'elle, puisqu'elle ne respecte pas les desiderata de Bernard-Henri Coltès. Comme Muriel Mayette est quelqu'un d'assez rusé et radical, entendant cela, elle dépose plainte contre François Coltès pour racisme, puisqu'elle considère que interdire à un acteur français de jouer un rôle d'arabe, c'est du racisme. Et comme Muriel Mayette est à la fois une amie de la femme de Sarkozy et une amie de la femme de Hollande, et aussi l'épouse de Gérard Holt, qui est une des grandes figures médiatiques françaises, elle entame une espèce de guerre extrêmement violente, et elle écrit un courrier à tous les directeurs de théâtre français en leur disant bien que s'ils ne prenaient pas cette cause pour elle, ils risquaient d'avoir de gros problèmes relationnels avec le ministère de la Culture. Donc, il y a une espèce
C'est
de
méchant.
bronca qui s'élève contre François Coltès, qui devient le méchant, sachant qu'en réalité, sur la totalité des représentations de Coltès, après la mort de Coltès, François n'en a interdit que deux. Et le seul à prendre position pour François Coltès, c'est Vaudan, qui écrit un très beau texte en disant l'universalisme veut que un acteur peut tout jouer, et bien évidemment, un acteur peut tout jouer. Un nain peut jouer un géant, une femme peut jouer un homme, un blanc peut jouer un noir et un noir peut jouer un blanc. Mais dans la réalité des faits, l'universalisme ne vaut que pour les acteurs blancs. Un blanc peut tout jouer, y compris le rôle d'un noir, mais un noir ne peut jouer que le rôle d'un noir. Partant de ce principe, l'universalisme est détourné au service des classes dominantes, et le refus de donner en plus aux noirs les rôles de noirs, alors qu'on ne parlait pas de donner les rôles de blancs, ou même chose pour les arabes, est évidemment totalement inacceptable. Au procès que lance Muriel Mayette, François Coltès fait aussi une plainte, donc il y a un double procès, et paradoxalement, chacun des deux perd le procès initial. Donc, en gros, François Coltès est bien accusé de racisme et Muriel Mayette est bien accusée de. Je ne sais plus quelle est la formule, mais bon, enfin, ça fait un peu n'importe quoi. Chacun fait appel. Du coup, c'est un gros, gros souci. Le ministère de la Culture demande à Pierre Joxe de devenir médiateur. Pierre Joxe rend un rapport absolument radical de 60 pages où il explique que la comédie française a tort de A à Z. Et la veille du deuxième procès, la comédie française retire sa plainte et passe par avocat pour rembourser à François Coltès la totalité des frais. Donc voilà, l'histoire est assez complexe. Et en réalité, quand j'ai reçu ce texte, je me suis dit que je voulais le publier, parce que j'étais assez sensible à ces problématiques de racisé, de colonialisme caché au sein de nos sociétés, etc. Et du coup, j'ai rencontré François Coltès, qui se révèle être aussi un auteur de nouvelles tout à fait intéressant. Alors évidemment, un auteur qui est condamné à faire l'ombre de son frère, ce qui n'empêche que c'est un réel petit maître de la nouvelle. J'ai trouvé ces nouvelles, qui sont des nouvelles qui mettent en scène en fait des petites exploitations de campagne, des paysans pauvres, abandonnés, donc d'autres victimes finalement de la violence du capital des années 60-70, puisque on est passé d'un monde agricole qui comptait 15% enfin 15% des travailleurs en France étaient employés agricoles, et puis maintenant on est à 3%, avec un taux de suicide colossal. Donc il parle de tout ça, et ce sont des vrais textes que je trouve extrêmement beaux, qu'on a publié dans un très beau bouquin admirablement illustré, qui s'appelle La Croix des Champs. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à publier François Coltès, ainsi qu'un texte de Cyril Desclées, qui analyse la manière dont le théâtre français des années 80-90 était un théâtre blanc et racisé qui, sous couvert d'universalisme, ne voulait pas se remettre en cause.
Alors,
On a, c'est juste une parenthèse, mais j'ai quand même un texte de Muriel Mayette qui explique que un acteur d'origine africaine ne peut pas jouer Shakespeare ou Corneille parce qu'il a trop d'accent. Et donc, en fait, elle imagine que tous les acteurs noirs ont un accent. C'est assez extraordinaire.
Deux petits points de détail, c'est que c'est un sujet sur lequel les Forges travaillent ces jours-ci. Alors, on a commencé à travailler dessus, surtout. Il y a un texte des Forges dont je suis très fier, mais pas très lu, c'est une réédition de Marie ou l'esclavagisme de Gustave de Beaumont, qui était donc le meilleur ami d'Alexis de Tocqueville. Bon, parenthèse. L'an dernier, L'incivilité des fantômes de River Solomon, donc qui est une autrice noire américaine. Et surtout cette année, je travaille actuellement sur un texte de Charles Yu, un auteur que tu connais aux Forges,
Tout à
non,
fait,
tu connais l'œuvre, et qui s'appelle Chinatown intérieur, sur la représentation de l'homme asiatique aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un de très très doux, Charles Yu, mais il arrive en fait à une certaine forme de colère et longtemps, il a différé le moment où il parlerait de ce sujet-là, mais c'est en train de devenir son sujet. Et c'est vrai que travaillant avec lui sur ce texte et avec sa traductrice, on se rend compte que c'est des questions qui, certes, se formulent différemment aux États-Unis et en France, mais sont des questions qui sont communes aux deux pays sur le dévoiement de l'universel et sur les tensions entre républicanisme, universalisme, communautarisme, voilà. Mais pour essayer de... Enfin, voilà. Bon, ça, c'est une raison pour laquelle ça m'intéresse ces jours-ci, et c'est vrai que cette histoire avec Coltès, c'est complètement hallucinant. Et quelque chose de complètement anecdotique, c'est que je dis souvent qu'une des choses qui, moi, m'a beaucoup aidé pour me lancer dans l'édition, c'est la troupe de théâtre étudiant où j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années. C'est qu'en fait, on a joué une fois. Alors moi, je jouais pas cette année-là, mais on a joué, j'ai un doute, Roberto Succo, Donc quand je dis on, c'est la troupe, mais moi je n'ai pas joué cette
Mmh.
pièce-là. Et en fait, ceux de la troupe qui ont été en contact avec le frère de Bernard-Marie Koltès, l'ont trouvé assez fantastique. Et pour les éditeurs, c'est important de savoir, et pour les auteurs même, de savoir que le destin d'un auteur, c'est pas simplement ses œuvres, c'est aussi d'avoir après des ayants droit, ou en anglais on dirait un estate, qui vont aider le développement de l'œuvre après. Et parfois, c'est triste quand l'œuvre, à la mort de l'auteur, tombe dans les mains de la mauvaise personne. Et là, je pense que dans le cas de Coltès, c'est tombé dans les mains de la meilleure personne possible, en fait.
Oui, François Coltès, c'est quelqu'un d'extrêmement. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est étonnant parce que l'histoire avec Muriel Mayès a donné une réputation de grognon ronchon, mais c'est quelqu'un de très
Ah,
drôle et de
oui, il a
très
été
humain. Et
très
honnêtement,
généreux avec la troupe de théâtre étudiante qu'on était à
voilà,
l'époque.
c'est-à-dire qu'il a. Vas-y, excuse-moi.
Non, mais voilà, c'était complètement anecdotique ce que je disais, mais c'est voilà, on s'est, pardon, je me suis permis de nous éloigner du sujet,
Non, non, mais
mais
tu as raison.
revenons sur le
Non, non,
sujet
ça reste le sujet.
des lectures. Je pensais, malheureusement, parce que j'y pense, parce que tu mentionnes un auteur décédé. Il y a un auteur que tu as édité et que je trouve qu'il n'est pas assez connu en France par le grand public. Alors, il est connu par un public un peu plus spécialisé. C'est Ian Banks. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu d'Ian Banks?
Une banque, alors c'est un auteur écossais absolument extraordinaire. Il y a Ian Banks, il y a Ian M. Banks, c'est évidemment la même personne, simplement quand il signe avec le M, il écrit de la science-fiction et sans le M, il écrit autre chose qui n'est pas nécessairement facile, enfin, qui n'est pas si facile que ça à définir. Je vais me focaliser un peu sur le M. Banks, mais le cycle culture, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, décrit une civilisation type Star Wars. Mais non pas un univers de guerre galactique un peu Star West finalement, mais une civilisation qui aidée par des intelligences artificielles qui ont presque le statut de dieu, a atteint un niveau de développement, de maîtrise et de puissance qui fait que ça peut être une société qui est apparemment anarchiste, puisqu'il n'y a plus de centre, plus de pouvoir, plus d'argent. L'argent a été abandonné il y a longtemps puisque elle bloquait la circulation réelle des richesses. Et en même temps, cette société est tellement puissante qu'elle peut se permettre d'être anarchiste, puisque, grosso modo, personne n'arrive à la contrer. Et alors, ce n'est pas, je vais dire ethnocentré, il n'y a pas que des humains, il y a tout un tas c'est vraiment une civilisation intergalactique. Et donc, ce mélange à la fois une acuité politique, un sens de la narration, une cruauté jouissive et une ironie absolument extraordinaire. C'est le space opéra, c'est un space opéra écrit par un homme de gauche, même très à gauche, je pense, anarchiste et totalement narquois. Et donc, ce sont des textes qui sont incroyables, qui peuvent parfois être bavards, mais à mon sens, ça n'a jamais été un problème. Et là encore, Banks arrive à bousculer les codes et les genres. Et il a pour particularité de beaucoup aimé l'écriture phonétique qui apparaît dans deux de ses textes. Alors, un qui s'appelle Entrefer, qui n'est pas un M. Banks, mais qui est l'histoire d'un architecte qui a un accident de voiture sur un pont et qui se retrouve dans le coma, dans un univers parallèle, où en gros, un personnage féminin qui est la mort essaie de le séduire et il faut qu'il échappe à cette séduction pour survivre. Et il y a une espèce de Conan le barbare qui passe du statut de débile à un peu plus que cela, qui au début du roman parlant totalement phonétique, et ça s'améliore. Et il y a Effroyable Engin, qui est un texte qui met en scène probablement la planète Terre qui aurait été abandonnée par à peu près tout le monde parce que la planète était sur une échelle de plusieurs millénaires en danger. Ils ne sont restés sur la Terre qu'une espèce de secte médiéviste qui ne voulait pas utiliser la technologie. La technologie est toujours là, mais ils ne savent pas l'utiliser, c'est comme de la magie, même si ça reste de la technologie. Et ce sont quatre personnages qui sont mis en scène et qui vont grosso modo sauver la Terre. Et l'un des quatre personnages est un enfant moine dont le métier est de plonger dans un monde virtuel dans lequel survivent les âmes. Et ce gamin parle en phonétique. Donc un quart du livre est entièrement écrit en phonétique et c'était la raison pour laquelle ce livre n'avait jamais été traduit. Donc c'était le seul M. Banks que je n'avais pas lu, le seul M. Banks qui n'avait pas été traduit. Comme je ne parle pas anglais, il m'était totalement impossible de le lire. Et du coup, en espèce de dandy fou furieux, j'ai acheté les droits. J'ai demandé à l'excellente Anne-Sylvie Jonas de le traduire. Elle s'en est acquittée merveilleusement. Et j'ai enfin pu lire ce livre, hein, de cette manière-là. Banks reste, à mon sens, un des auteurs de science-fiction les plus intelligents et les plus visionnaires sans être donneur de leçons. C'est pas une anticipation qui vous dit attention, ça va être ça. On est vraiment dans quelque chose de totalement autre, mais à l'intérieur de cet univers totalement autre, il y a une manière de décrire le rapport au pouvoir, à la toute-puissance, au désir, à la cruauté qui est étonnant. C'est quelqu'un qui raconte des contes cruels sur les utopies. C'est le, voilà, c'est le. On imagine toutes les utopies ou toutes les dystopies que l'on veut, et dont celle-ci, lui, sera l'inventeur des contes qui concernent ces utopies ou ces dystopies.
Je pense que là, tu m'as donné envie de replonger dans Ian Banks. Si, alors, c'est un point de détail, mais c'est vrai que ce qui me frappe ces jours-ci, c'est que dans les métiers du livre, on parle beaucoup de comment réussir à vendre alors qu'on est en période de confinement, alors que normalement, tout bon lecteur a chez lui plein de livres d'avance, en fait. C'est assez rare de, si on est je pense, une lectrice ou un lecteur assidu, de se retrouver en panne de lecture. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis pas en panne de lecture. Et j'ai du Banks chez moi que je n'ai pas lu. Mais maintenant, je
Lesquels,
pense que.
lesquels?
Non, non, j'ai Champ-de-Pierre, en fait, chez moi. Et sinon, j'en
Ah.
ai pas mal dans un carton en poche, mais c'est des vieilles éditions. Il faudra que j'aille regarder tout à l'heure. Voilà. Et alors, attends, avant de se quitter, parce que effectivement, je me suis engagé à faire une émission qui dure autour de la demi-heure, parce que sinon, je ne sais pas si les gens nous écouteront, alors qu'on peut, toi et moi, parler plusieurs heures d'affilée. Je pense qu'il y a des gens qui nous écouteront si on parle plusieurs heures. Je pense que tout le monde ne nous suivra peut-être pas, mais je dis souvent que tu es l'auteur le plus italien du catalogue des Forges, parce que pour l'instant, on n'a pas de. Ah si, on a un vrai auteur italien, c'est Luigi Manzini, qui était un philosophe du début des Lumières, mais qui écrivait donc de la philo, c'est pas un auteur de fiction. Donc tu es le romancier le plus italien du catalogue. Et donc, est-ce que tu pourrais nous donner des recommandations de lecture en littérature italienne?
Alors, je connais, pas paradoxalement, je connais assez peu la littérature italienne pour une raison un peu étrange, qui est une raison d'âge. J'ai 51 ans, bientôt 52 ans, et jusqu'à la fin des années 80, la littérature italienne était extrêmement peu traduite en France. Il y avait tout Italo Calvino, il y avait quelques grands classiques, mais la littérature contemporaine italienne n'était pas traduite. Il a fallu attendre que Actes Sud, entre les années 80 et 90, bouge les lignes de la traduction pour que les éditeurs se secouent un peu et s'interrogent sur ce qui se passe en littérature italienne. Donc, au final, c'est une littérature que je connais assez peu. Donc, évidemment, il y a Calvino et consorts, mais ça, on va pas s'embêter. Il y a un auteur que j'ai toujours envie de défendre parce que je trouve qu'il est beaucoup lu en France, mais ce ne sont pas ses meilleurs textes qui sont lus. C'est Andrea Camilleri. Camilleri, il a créé une ville fictive qui s'appelle Vigata, qui est située en Sicile, et il a écrit deux séries. Une série qui se passe au XXe siècle, qui met en scène le commissaire Montalban, donc qui est un hommage à un écrivain espagnol. Et le commissaire Montalban résout des enquêtes, est colérique et adore manger. C'est une série policière qui est sympathique, avec des intrigues, ce que je ne sais pas faire, qui sont extrêmement bien troussées et bien construites. Mais on est quand même dans le polar traditionnel. Le polar, avec le commissaire, sa virilité, l'assassin, l'intrigue, le dénouement, etc. Mais il a écrit toute une série à Vigata qui se passe au 19e siècle, où là, chaque roman est indépendant. Et la série du 19e siècle est absolument extraordinaire. Il y a par exemple une saison de la chasse, une saison de chasse. Un certain nombre de personnages sont assassinés dans un village, à Vigata, et on ne sait pas comment ni pourquoi. On est bien dans une intrigue policière, mais là c'est totalement explosé et délirant. C'est incroyablement bien écrit. Camilleri mélange à la fois l'italien, le patois, le sicilien, le latin. Il a deux traducteurs qui arrivent à s'en dépatouiller plutôt bien. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un de ses romans qui est totalement épistolaire, Le titre ne revient pas. Et les lettres alternent entre des lettres administratives extrêmement chantonnées et obséquieuses et des lettres d'insultes d'une vulgarité totale. Il y a un texte qui doit s'appeler Le coup de l'échiquier, je crois, où le personnage principal est un policier ou un magistrat qui n'est pas sicilien, qui donc ne parle pas sicilien, et un mafieux se fait tuer, et juste avant de mourir, il prononce une phrase qui est ambivalente, parce que selon que c'est soit du latin, soit l'italien, soit du sicilien, il ne désigne pas le même coupable. Et c'est tout un jeu de langue et de. C'est une écriture extrêmement bien écrite. Fichu, c'est un rapport à la langue et au niveau de langage qui est incroyable, et c'est d'une drôlerie et d'un humour qui est étonnant. Et alors voilà, autant la série Montalbano est à mon sens un peu facile, mais c'est ce qui est le plus lu, autant les thèses du 19e siècle sont vraiment magnifiques.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de littérature italienne, je pense que tu nous as donné envie de nous plonger dedans. Et c'est vrai que y a un manque dans la littérature, dans la traduction de la littérature italienne contemporaine des 40 dernières années, qui est important. Et c'est vrai que toi et moi, quand on travaillait, on préparait la publication de Souviens-toi des monstres, ton premier roman aux Forges, en fait, on a pas mal parlé Italie, mais on a parlé, je me souviens, plutôt cinéma, tradition, culture populaire, et pas tant littérature que ça, en fait.
Il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Autant l'Italie a réussi avec le néoréalisme et avec cette production cinématographique à irriguer la culture européenne et mondiale, autant sa littérature est restée très enfermée. Et même en France, on ne connaît pas Zolini, mais on ne connaît pas Zolini comme cinéaste et comme homme de théâtre, alors que son œuvre littéraire, poétique et critique est extrêmement conséquente. Mais il n'y a pas d'éditeur qui s'est collé aux œuvres complètes. Alors tant mieux, parce que ça permet, par exemple, à Epsilon ou aux éditions Nous de publier des inédits, même au temps des frises. Mais ouais, il y a un vrai déficit à ce niveau-là, une vraie méconnaissance. Dans les auteurs contemporains, il y a Ascanio Celentini, par exemple, avec entre autres La Brebis Galeuse au sonneur, qui est un très beau texte.
Ouais, je
Mais
suis
c'est
sûr.
pareil, c'est pas un auteur connu que ça, et on le connaît parce qu'il a fait un film, parce qu'il a fait du cinéma et du théâtre, par exemple. Il n'est pas arrivé en France par le biais de la littérature. Il y a une vraie difficulté française à prendre au sérieux la littérature italienne. Je ne sais pas à quel endroit ça se joue, je ne sais pas pourquoi.
Je sais pas, moi je suis assez frappé
Peut-être
quand
parce qu'il n'y a
même.
pas beaucoup de polars en Italie, ce n'est pas leur enjeu.
Ouais, mais moi je suis quand même très très. Mais j'y pense ces jours-ci parce que je me pose des questions sur les prochaines traductions aux Forges et je me rends compte quand même qu'on est très très écrasé par les traductions de l'anglais, l'anglais britannique et encore les britanniques, je les trouve un peu négligés finalement. Il y a encore des choses à trouver et surtout les Américains en fait. Mais ça, je pense que c'est un phénomène très européen, c'est-à-dire que quand on parle de traduction, on traduit les Américains. Et en fait, nos propres voisins, il y a beaucoup de textes qui sont des grands, grands textes qui passent complètement inaperçus. Mais
Non,
ça
je
sera.
constatais avec. On parlait avec Olivier Troudonçon, par exemple, à la Maison de la Poésie, puisqu'il y a un cycle de littérature hollandaise. Et c'est un cycle qui dure une semaine, avec du coup deux à trois auteurs invités pour la même soirée. Et on a entre 15 et 20 personnes dans la salle. Il y a une inappétence, un inintérêt pour la littérature hollandaise, par exemple. Et il n'y a aucun retour de journalistes, de critiques ou de libraires sur ce festival. C'est comme si la Hollande était incapable de produire un auteur, ce qui est absurde. Il y a une
Me
vraie.
dis pas ça parce que attention à partir de l'an, moi j'essaie de faire rentrer des chaque année il y a un ou une nouvelle personne une nouvelle personne qui rentre dans le catalogue des Forges généralement et l'an prochain il y aura un auteur français et une autrice néerlandaise Anna Berwoets qui est une jeune romancière qui a déjà bon 7 romans à son actif mais qui doit avoir 35-36 ans et qui est un peu la jeune star d'une littérature néerlandaise grinçante un peu surréaliste. Il y a toute une tradition réalisme magique qu'on trouvait aussi chez les Flamands dans les années 50-60-70 avec quelqu'un comme Lampo qui était chez L'Âge d'Homme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs néerlandophones. Alors je dis néerlandophones parce que ça peut être soit des Flamands, soit des Néerlandais. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ne sont, enfin, il y a très peu de choses traduites, et c'est un grand manque. Donc, mais j'espère que l'an prochain, les Français se découvriront une passion pour la littérature néerlandaise. Enfin, je compte dessus et je compte sur Anna Bervoets. Voilà.
J'essaie de communiquer de manière ambiguë, qu'on ne sache pas si c'est une Hollandaise, une Belge, voire même une Suisse. C'est un
C'est
truc un peu bizarre. En jouant sur la fort mauvaise conception de la géographie européenne des Français.
ça, notre méconnaissance de la géographie devenir un avantage. Bon, Jean-Luc, je te remercie énormément. C'était
Ben,
David
merci à toi.
Malmans qui appelle les auteurs et autrices des Forges. Aujourd'hui, c'était Jean-Luc Dachenneau qui est auteur aux Forges de deux romans, Souviens-toi des monstres et Ta main noire, tous les deux disponibles en librairie, enfin disponibles dès que le confinement sera fini. Et je crois que Ta main noire est disponible en numérique, puisqu'il est sorti en papier en numérique le même jour. Eh bien, Jean-Luc, je
Il est
te remercie
sorti, cette année,
beaucoup.
il est sorti 8 heures avant le confinement.
Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça c'est le livre qui a des forges qui a vendu le plus grand nombre d'exemplaires dans le plus petit laps de temps. Voilà.
C'est ça, en 8 heures.
Bon, Jean-Luc, à très bientôt, au revoir.
Ouais, plus tard. Ciao, ciao.